Y a-t-il une vie au-delà du jeu vidéo pour Ubisoft? La réponse est clairement oui, puisqu'il y a une structure, une société de production qui s'appelle Ubisoft Film and Television Paris. Et on accueille aujourd'hui la directrice générale Hélène Juguet. Bonjour.
Bonjour.
Un grand plaisir de vous accueillir parce qu'il y a beaucoup à dire sur les activités audiovisuelles d'Ubisoft. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quel métier? Parce que j'imagine que ce métier-là, il n'existait pas encore.
Non, je vous confirme, il n'existait pas encore du tout. Et je suis tombée complètement par hasard. Mais quand j'étais petite, je jouais à Pong, déjà.
Donc, il y avait une passion pour le jeu vidéo.
Je ne peux pas dire que c'est une passion. Je ne suis pas une grosse gameuse, bien que je suis au niveau 4000 de Candy Crush. Donc, tout est relatif.
Donc, mais le jeu vidéo téléphone.
Hein. C'est ça. Mais j'ai joué aussi à pas mal de jeux vidéo. Et en fait, c'est une rencontre un peu par hasard d'un univers que je connaissais, même si je ne pensais pas qu'on pouvait en faire un métier. Et d'une annonce un jour, hein, où je me suis dit, mais ça a l'air fun. L'entertainment m'intéressait, le divertissement. Ouais. Et je suis tombée dans le jeu vidéo.
Parce que vous rêviez quand même de travailler dans les industries créatives?
Absolument. Oui, les industries créatives m'intéressaient énormément, ça c'est sûr. Peut-être pas quand j'étais petite, mais en tout cas un peu plus tard avec mes études. Et du coup, je suis tombée, et là je me retrouve dans un carrefour entre jeux vidéo et industrie audiovisuelle. Et c'est passionnant en fait.
D'ailleurs, donc, la structure Ubisoft Film and Television Paris, c'est, d'ailleurs je devrais tout prononcer en français, je crois.
Oui, ça marche.
Mais en fait, c'est une société, la raison d'être, enfin la raison sociale, c'est société de production audiovisuelle.
Tout à fait.
C'est une structure accolée à Ubisoft, donc dans le jeu vidéo.
Exactement.
Mais donc vous n'êtes pas dans le secteur du jeu vidéo finalement.
Mais je ne le suis plus. Je l'ai été longtemps, puisque moi je suis depuis très longtemps dans l'industrie du jeu vidéo. Mais effectivement, maintenant j'ai changé de métier, j'ai fait une carrière. Une carrière en tant que dans le marketing du jeu vidéo. Parce que j'ai lancé Splinter Cell à l'époque. Et une deuxième carrière en tant que productrice et directrice générale d'une structure audiovisuelle.
Et comment ça s'est fait, ça? Je voudrais l'anecdote éventuellement, mais à quel moment on vous a mis l'offre sur la table et on vous a proposé ce job-là?
Alors en fait, moi, comme c'était en interne, déjà, j'avais fait un peu tout le tour de ma carrière de marketeuse en arrivant directrice de la stratégie de marque chez Ubisoft. Et j'avais fait un peu le tour de ce métier-là et j'ai eu envie de changer. Et à ce moment-là, la filiale venait de se créer, qui filmait télévision. Et j'ai demandé, est-ce que je peux aller travailler là-bas? Et à l'époque, c'était pour porter toute ma connaissance des marques Ubisoft dans cette structure audiovisuelle. Et petit à petit, j'en ai pris la direction.
Et est-ce qu'on peut en imaginer que, en fait, Ubisoft Film and Television Paris, je vais avoir du mal à le prononcer en français, mais il y a une logique marketing, c'est-à-dire que quand on transpose une propriété intellectuelle de jeux vidéo en série télé, en série d'animation ou en film, la logique derrière, c'est avant tout de servir le jeu vidéo d'origine. C'est ça qu'il faut comprendre ou pas forcément?
Alors, c'est une logique de construction de franchise. Clairement, je dirais, au-delà du marketing, l'idée, c'est de faire briller les univers qui sont gigantesques et qui sont extrêmement détaillés, extrêmement riches créativement d'Ubisoft et les marques d'Ubisoft dans un univers créatif, narratif plus large. Et c'est en fait de les installer dans la culture générale, la pop culture, en quelque sorte. C'est vraiment ça l'ambition.
Bah là, il y a pour moi un très bon exemple, c'est que j'ai jamais joué aux lapins crétins qui sont à l'origine des antagonistes dans Rain Man. Aujourd'hui, c'est facile d'imaginer qu'à la base, c'était un dessin animé. En fait, le dessin animé marche tellement bien que l'origine n'est plus forcément si évidente.
Exactement. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des gens qui connaissent Les Lapins Crétins le connaissent comme une série d'animation qu'ils ont vue à la télé. Exactement. Pour enfants et grands-enfants, parce qu'on a quand même aussi des publics un peu plus âgés. Tout à fait. Et donc, on a un peu renversé cet équilibre-là. Mm. Ça peut être le cas d'un Sonic aussi, par exemple. Oui, ça permet de voir comment on peut transférer une IP d'un médium à l'autre, tout en se complémentant, et un jour peut-être refaire l'aspect inverse et revenir au départ et faire du jeu vidéo à nouveau sur la base de la série, par exemple.
On pourrait dire que Les Lapins Crétins, c'est l'exemple typique de votre mission, de ce qu'il faut réussir, c'est-à-dire avoir une IP qui devient limite plus puissante sur un nouveau médium. Ou est-ce que ce n'est pas forcément ça l'objectif?
Je ne dirais pas que l'idée, c'est que ce soit plus puissant sur un autre médium, parce que pour moi, ça doit devenir puissant sur tous les médiums. Mais en revanche, être capable de pouvoir créer des moments culturels extrêmement forts, comme on peut faire avec le cinéma, par exemple, pour amplifier la marque, pour des gens aussi qui n'ont plus le temps de jouer, mais qui adorent cet univers et qui peuvent plus y rentrer par le médium du jeu vidéo. Des nouvelles générations qui veulent redécouvrir un Rayman, par exemple. Exactement, et qui ensuite vont re-rentrer dans le jeu vidéo. C'est une sorte de boucle créative, on essaye de se nourrir chacun. Le rêve, c'est qu'une film ou une série développe un élément du lore qui est tellement passionnant qu'ensuite, les jeux aient envie de s'en emparer pour recréer une nouvelle partie de ce qu'était la franchise gaming à la base.
Et d'ailleurs, comment ça fonctionne dans la pratique? Vous avez un jeu, par exemple. Mm-hmm. On vient vous voir en vous disant, voilà, il faudrait que tu réfléchisses avec tes équipes à comment en faire une série d'animation, voire un film ou une série tout court, même si vous, vous êtes plus sur les films d'animation et le cinéma d'animation, mais il y a des étapes, j'imagine, mais le tout début, qui prend la décision ou qui met l'idée sur la table?
Alors en fait, nous, ce qu'on a, c'est, surtout au début, quand on a commencé à faire du développement, on a une sorte de coffre au trésor qui est incroyable chez Ubisoft, évidemment. Puisque
beaucoup de jeux ont été créés.
Exactement, des IP déjà, mais des jeux. Et en fait, c'est la structure film et télévision qui, avec les experts de ce métier-là, puisqu'en fait, le montage d'un film, c'est une
expertise. C'est pas le même rythme.
Exactement, c'est une expertise assez différente de ce qu'on a en jeu vidéo.
De la création d'un jeu.
Exactement. Le business est différent, les marchés sont différents, les montages...
Les boucles narratives.
Le contrat est différent, la façon dont on raconte
tout l'histoire. Tout est différent, finalement, à part les personnages.
Voilà. Il y a énormément de différences. Et donc, en fait, nous, chez Film et Télévision, on a cette expertise-là. Et on va rencontrer les besoins d'un marché, une envie créative d'un créateur avec qui on a envie de travailler. C'est ce qui s'était passé avec Captain Laserhawk, Blood Dragon Remix. C'est Adi Shankar qui nous a dit, moi, j'aimerais bosser sur cette franchise-là, dans ce qu'on a
comme
fait,
une discussion,
ensuite, on monte le projet.
Comme une discussion qu'on pourrait avoir pour n'importe quel film ou n'importe quelle adaptation d'un livre ou d'une bande dessinée. C'est-à-dire que le réalisateur ou le scénariste peut venir vers vous en disant, j'ai envie de faire un truc avec telle franchise.
Ça peut arriver. Et si c'est quelqu'un avec qui on a envie de bosser, effectivement, ça peut venir de là. Ou parfois, on dit, bah voilà, on ouvre le coffre au trésor, en disant, nous, on a tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie? Ça et ça en particulier, ça nous intéresse, parce qu'on a aussi des directions stratégiques plus fortes qui sont plus intéressantes pour Ubisoft. Et c'est le créateur, parfois, qui s'en empare.
Ah, il y a des
et
IP
parfois,
plus
on va Exactement. Et parfois, on va plutôt se baser sur la franchise elle-même. Assassin's Creed, par exemple, c'est une autre dynamique. Elle est tellement énorme que c'est un Netflix. Ça se fait au niveau de la licence. On se met d'accord avant même d'avoir un créateur et une création.
Oui, il faut le faire stratégiquement. Et d'ailleurs, il y a eu un film, Assassin's Creed, il y a déjà près d'une décennie, si je ne me trompe pas. Là, il y a une série qui va voir le jour. Mm-hmm. J'ai envie de vous demander l'intérêt pour l'IP, pour le jeu notamment. On a eu Clara Benyamin, une avocate spécialiste du droit du numérique, qui nous disait que quand on faisait une adaptation, même si l'adaptation n'était pas forcément très réussie ou en tout cas pas forcément saluée par la critique, malgré tout, l'effet serait quasiment tout le temps positif sur le jeu parce que ça relancerait des achats ou relancerait des parties. Est-ce que ça, vous le constatez ou vous l'avez constaté avec les anciennes franchises adaptées?
On l'a absolument constaté. Je pense qu'à l'époque d'Assassin's Creed, je crois que le back catalogue avait augmenté de 40%.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. C'était une année où il n'y avait pas de lancement de jeu. Ça nous avait permis de continuer à travailler la franchise, justement, une année où...
Donc 40% sur tous les jeux qui avaient déjà été sortis.
C'est ça.
Et donc ça, en fait...
Par rapport à une ligne classique de back catalogue pour n'importe quelle année.
Dans la stratégie globale d'un groupe comme Ubisoft, ça fait de vous... un élément, une brique de soutien extrêmement importante
tout
pour relancer, et notamment dans les périodes de creux entre deux grosses productions, en fait.
Exactement. Et alors, la difficulté, c'est que c'est très difficile de caler les calendriers, puisque un film...
On peut avoir des retards sur des jeux.
Sur des jeux et sur des films aussi. Ça met très longtemps à monter un film. C'est aussi très aléatoire. Il faut savoir que c'est une industrie de 80% d'échecs. Mmh. Quand on commence un développement, il y en a 20% qui vont... aboutir à quelque chose qui va sortir sur les écrans. Donc, c'est très difficile de caler un jeu vidéo et un film, par exemple. C'est assez rare. Donc, on ne peut pas vraiment le planifier au départ.
J'espère que vous n'êtes pas en train de me dire que la série Assassin's Creed sur Netflix n'a que 20% de chance d'aboutir.
Là, pour non, le coup, là maintenant, elle est en tournage.
Voilà.
On l'a annoncé cette semaine.
Avec le casting.
Elle a passé toutes les difficultés de validation. C'est un travail de très très longue haleine. Ça fait très longtemps qu'on a signé avec Netflix le fait de faire cette série. Et la mise en place, ce qu'on appelle le green light, c'est vraiment ce qui va valider le fait qu'elle va partir en production. Et donc là, avec toute l'écriture, avec la mise en place des décors, etc. Et là, ça y est, elle est partie en tournage la semaine dernière.
Et dans un cas comme celui-là, on a deux énormes structures, Ubisoft d'un côté, Netflix de l'autre. Comment vous vous répartissez le choix, le droit de faire les décisions critiques autour de la série? Qui a le final cut, si j'ose dire?
Alors, On a beaucoup travaillé cet élément avec Netflix, parce qu'on a deux exemples un peu différents. La série Splinter Cell Death Watch, qui est une série d'animation, par exemple, est montée différemment avec Netflix que la série Assassin's Creed.
C'est pas les mêmes budgets aussi, j'imagine.
Exactement, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes, du coup,
les mêmes enjeux.
Exactement. Donc il y en a une qui est vraiment très drivée par Netflix, qui est Assassin's Creed, où vous pouvez prendre la comparaison d'une voiture pour Assassin's Creed. Netflix est derrière le volant et nous on est les copilotes avec la map. La garantie de la
franchise. Qui ont fait le moteur aussi, peut-être
Le moteur, c'est leur société de production qui produit. Et là, pour le coup, nous, on se met d'accord au début sur où aller, que faire. On est consulté sur toutes les décisions créatives.
C'est une session en fait, de l'IP temporairement avec un droit de regard, mais les décideurs...
Ça va plus loin que ça. C'est vraiment une création commune au départ. On est présent sur le tournage, pendant tout le tournage, par exemple.
Vous avez pu donner votre mot sur le casting, par exemple ?
Exactement. Tous les éléments. Toute l'écriture, tout le choix du réalisateur, du showrunner, comme on dit, etc. Tout ça est orchestré avec Ubisoft. Et à côté de ça, pour Splinter Cell, par exemple, le montage est très différent, puisque c'est nous qui sommes producteurs délégués et exécutifs. Et pour le coup, c'est un peu inversé. Nous avons les mains derrière le volant et c'est Netflix qui copilote. Et qui a aussi la main sur le frein à main.
Si les dépenses de production dérapent, par exemple, c'est ça ou c'est plus
c'est notre
sur
responsabilité.
Les choix... D'accord. Parce que j'imagine que si le projet est plus petit ou si vous avez la main, ça veut dire que votre réalisateur, vos créatifs, ont aussi plus de liberté. On fait un sujet ou un produit final qui est beaucoup plus personnel.
Alors, ça nous permet d'aller vers plus de choix artistiques et créatifs différents. Et par exemple...
Plus de risques
pour Captain Lazarok, le choix d'un studio comme Bobby Pills, ou le montage qu'on a fait pour Splinter Cell, effectivement, ça nous permet aussi d'avancer ces pions-là un peu plus facilement, puisqu'on a la main derrière le volant, et parce que ce n'est pas des budgets aussi énormes et une ambition aussi gigantesque que Assassin's Creed Live.
Alors, j'espère ne pas vous froisser en citant la concurrence, mais par exemple, il y a beaucoup d'autres séries adaptées de jeux vidéo, notamment sur Netflix. On va citer, par exemple, Cyberpunk 2077, Edgerunners, qui était très réussi, d'ailleurs.
Tout à fait.
Coproduction, d'ailleurs, entre les Polonais de Red Project et un studio japonais. Ces adaptations, cette présence de plus en plus soutenue de licences de jeux vidéo sur des plateformes de streaming, vous pensez que c'est, d'une certaine manière, l'avenir du jeu vidéo ? C'est-à-dire qu'on va en voir de plus en plus et que ça va prendre peut-être, je ne sais pas, 40%, 60% des catalogues à terme ?
Alors, je ne sais pas quel pourcentage ça va finir par prendre, mais là, on est déjà sur plus de 20%. Donc, de la même façon qu'avant, il y avait les bouquins, ça continue, mais les livres, il y en a de moins en moins qui sont adaptés. Enfin, c'est une ligne assez stable. On avait les super-héros, on est passé aux comics. Et je pense que le jeu vidéo est clairement dans son apogée et on va encore voir beaucoup d'adaptations arriver sur le marché. Là, on est à plus de 20% qui sont basés sur des jeux vidéo. Est-ce que ça montera jusqu'à 40%? Je ne sais pas, parce que beaucoup des IP ont aussi été attrapés par les Netflix de la Terre, les Amazon, etc. Donc, il y a celles qui vont être des succès et qui vont continuer. Film 3, 4, série saison 5.
Celles qui vont être gardées au frigo sont à être exploitées aussi.
Exactement. Ça peut... Et donc, où est-ce que ça se terminera le chiffre ? Je n'en sais rien, mais comme c'est le hobby numéro un des générations à venir et ça va augmenter. Voilà, ça va forcément composer une grosse partie des adaptations qui vont arriver.
Là, je ne vais pas citer la concurrence, mais plutôt des anciens d'Ubisoft, Sandfall, ils ont fait un super jeu, Clair Obscur Expedition 33. Est-ce que ça vous plairait de travailler sur une adaptation, par exemple, d'un tel jeu ?
Alors, c'est un jeu, c'est un matériel qui est extraordinaire aujourd'hui. Et ils ont réussi à créer une émotion partout dans le monde qui est fantastique. Donc, c'est toujours très intéressant de travailler sur ce genre d'adaptation, avec énormément d'enjeux. Puisque justement, il y a tellement une représentation.
Il faut être à la hauteur
Exactement.
Du jeu.
Exactement. Et il va forcément faire un choix artistique.
Oui, parce qu'il y a deux fins dans le jeu. Et sur
et
la série, il y en aura qu'une.
Forcément, voilà. Et comment retravailler ça, comment le traiter, ça va être un choix artistique extrêmement intéressant. Je leur souhaite...
Le gameplay, notamment, qui doit être retranscrit d'une certaine manière à l'image, ça, c'est pas facile. Mais ça fait partie de votre job, finalement, de trouver des solutions.
Voilà, le challenge principal.
Hélène Juguet, c'était un plaisir. Donc, directrice générale de, je vais le dire en français cette fois-ci, Ubisoft Film et Télévision Paris. À très bientôt sur le plateau de PlaySmart. On continue cette émission avec un sujet qui risque de vous plaire. Hall of Fame, c'est une initiative sur le jeu Minecraft qui est avec Endora et avec l'association Women in Game France, qui consiste à mettre en avant les femmes du monde du jeu vidéo.